deux invités, un plateau, une règle du jeu un peu particulière, il n'y a pas d'animateur. Pour mener le débat, elles sont toutes seules. Alors on commence par vous. Vous êtes qui ?
Je m'appelle Sylvana Condemi et je suis paléanthropologue. C'est-à-dire je travaille sur les populations anciennes et je travaille d'un point de vue, d'anatomie comparée et aussi de paléogénétique.
Pourquoi pensez-vous que c'est vous qui êtes là pour ce débat ?
C'est une question un peu piège, difficile. Je pense que si je suis ici, c'est parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille sur les Néandertaliens et que j'ai à la fois des compétences en tant qu'anthropologue sur l'anatomie des Néandertaliens, sur leur évolution, et également sur la paléogénétique, c'est-à-dire sur l'étude des Néandertaliens à partir de leurs gènes et pas simplement à partir de leur aspect physique et anatomique.
Deuxième invité, même règle du jeu. Vous êtes qui ?
Alors moi, je m'appelle Marie-Hélène Patoumatis, donc je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille dans le département préhistoire du Muséum à Paris.
À votre avis, pourquoi vous pour ce débat ?
Moi, ça fait plus de maintenant 20 ans que je travaille sur Néandertal et une des questions, est-ce que Néandertal a disparu à cause du changement climatique ? Évidemment, cette question est très importante avec tout ce qui se passe actuellement donc autour de nous et les changements climatiques.
Vous avez maintenant 30 minutes rien que pour vous, avec juste vos montres et une lumière rouge en point de repère. Elle s'allumera si on a besoin de vous arrêter, comme une balise de détresse si on est perdu. Allez, on commence, première partie. Qui se jette à l'eau ?
Pendant très longtemps, on a considéré l'homme de Néandertal comme inférieur aux hommes modernes, notamment donc à Cro-Magnon. Et en fin de compte, depuis 150 ans, on sait très bien que ça ne fonctionne plus, qu'on a vraiment des découvertes très importantes qui montrent qu'il avait un savoir-faire et une certaine intelligence au niveau des comportements et aussi au niveau de son anatomie qui nous indique qu'il n'était pas du tout plus bête ou plus bestial que l'homme moderne.
C'est intéressant ce que vous dites parce que pendant un siècle et demi, on a considéré le Néandertalien comme un être brutal, incapable d'avoir une vie affective, violent, avec des capacités cognitives absolument limitées. Il n'y a absolument, du point de vue anatomique, aucun problème pour que le Néandertalien puisse faire une industrie comme celle qu'on voit chez Cro-Magnon, par exemple.
Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit dans ses comportements également qu'il y a des savoir-faire très importants, notamment dans la taille donc, des roches, ce qu'on appelle la taille du silex. On voit qu'il a quand même été l'inventeur d'une technique extrêmement importante qu'on appelle la technique Levallois, qui fait qu'en ramassant un caillou, il voyait déjà l'outil qu'il allait faire. Donc ça, c'est très important. Ça nécessite vraiment une intelligence, à la fois donc, au niveau cérébral, mais aussi au niveau de la capacité de la réaliser par ses mains, justement. Donc cette technique, il la maîtrisait tout à fait. Et autre comportement très important, c'est qu'on voit très bien que, étant un omnivore, mais surtout orienté vers une consommation importante de viande, il doit chasser, donc il doit mettre au point des stratégies de chasse importantes, puisqu'il est faiblement armé. Hein. Il a simplement des lances avec une pointe en silex ou simplement des épieux de bois. Donc il n'a pas des armes très sophistiquées. Et malgré ça, on voit que c'était un grand chasseur, qu'il consommait énormément de viande et qu'il obtenait par la chasse. Et ça, c'est pour moi très, très important, qui montre qu'il y avait vraiment des développements de son cerveau très importants. Et aussi, ne pas oublier le côté symbolique. Parce qu'en fin de compte, on a souvent dit aussi, oh là là, c'était un homme, c'est complètement une bête, pas du tout. Puisqu'il enterre ses morts, il ne faut pas l'oublier.
Petit calcul, l'homme de Néandertal est apparu il y a environ 300 000 ans. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer autant de choses sur lui ?
Alors il y a déjà l'aspect comportemental, c'est-à-dire que quand on fait des fouilles archéologiques, on trouve des objets façonnés par ces hommes, notamment par l'homme de Néandertal, les outils. On trouve les ossements des animaux qu'il a chassés, notamment c'est des ossements de grands mammifères qui prouvent vraiment qu'il y avait une chasse à ces grands mammifères. Et on trouve aussi des squelettes. Donc à la fois, quand on étudie les comportements à partir de ces matériaux, de ces fouilles archéologiques, on a déjà des renseignements sur leur comportement. Et on voit très bien qu'il y a déjà des comportements importants, puisqu'il va y avoir la maîtrise du feu, la technique de taille des outils, la chasse, la structuration de l'habitat, c'est-à-dire qu'on voit qu'il commence déjà à aménager son lieu de vie. Donc tout ça fait qu'il y a déjà vraiment des comportements très importants, très sophistiqués, qui montrent ce que vous appelez l'intelligence et qui montrent ce qu'on appelle les capacités cognitives déjà très importantes. Et là, bien sûr, au niveau des squelettes, je pense que vous avez des choses aussi à nous dire sur cet aspect.
Bah déjà, c'est un individu qui a une très grande capacité crânienne. Il faut voir que la plupart des Néandertaliens ont une capacité crânienne qui est bien supérieure à celle de Homo sapiens. Donc c'est un indice. Alors bien sûr, on pourra toujours dire que ce n'est oui. pas important d'avoir un grand cerveau, c'est la façon dont on l'utilise. Mais si on a un petit cerveau et qu'on l'utilise très très bien, ce n'est pas la même chose quand on a un grand cerveau qu'on l'utilise aussi très bien. Disons qu'il y a les bases anatomiques pour avoir une intelligence par le cerveau, par la structure du cortex cérébral. On a également des bases anatomiques pour pouvoir parler, donc l'appareil phonateur est comparable au nôtre, avec un larynx dans une position qui est comparable au nôtre. Donc du point de vue anatomique, j'ajouterai également la main. Les Néandertaliens, bien sûr, ont un pouce opposable et il y a une dextérité qu'on voit d'ailleurs dans la taille des outils. Alors moi, je mettrai également pas simplement des caractères anatomiques, mais je pense qu'on a un reflet indirect de l'intelligence quand on voit que le Néandertalien va dans certains lieux pour prendre un certain type de pierre, d'outil lithique, pour faire un certain outil, que le rayon de déplacement qu'il a pour ce type d'outil est de 3 km, pour un autre type d'outil de 20 km, parce qu'il lui faut une pierre avec une capacité, une dureté particulière et qui se taille d'une certaine façon, ça montre quand même une intelligence. Ce n'est pas simplement un opportuniste qui va prendre un caillou, qui va l'utiliser. C'est-à-dire, il y a vraiment une idée, en fonction de ce que je vais obtenir, je vais avoir tel type de matériaux.
Mais je crois que ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce que vous venez de dire montre qu'il y a apprentissage. Et ça, c'est très important.
Vous savez, ce site que nos collègues allemands ont trouvé à Schöningen, qui est un site donc de chasse de chevaux, on se rend compte qu'on a trouvé donc des lances pour tuer les chevaux, mais ces lances ont des dimensions différentes et on en a trouvé qui seraient de petites dimensions parce que justement utilisées par des adolescents, ce qui montre bien qu'il y a un apprentissage également dans la chasse, et pas simplement. De toute façon, c'est impossible de penser une communauté sans langage. Il était différent d'une autre et il y avait sans doute un apprentissage.
Oui, il ne faut pas oublier qu'au moment de sa découverte, donc nous sommes au 19e siècle, qu'il n'y a pas encore eu l'apparition, notamment lors de Néandertal, l'apparition du livre de Darwin sur l'origine des espèces. Donc c'est vraiment, là aussi, on ne pouvait pas admettre l'ancienneté de l'homme. Et en plus, la découverte d'un crâne comme ça qui était... Pour l'époque, quand il apparaissait aberrant avec ses grosses arcades sourcilières, etc., l'absence de menton et tout, on en a fait un être pathologique, bestial. Et alors que maintenant, il y a quand même une évolution, bien que, il ne faut pas oublier que certains collègues pensent encore que le Néandertal est quand même inférieur à l'homme moderne. Il y a quand même encore ce côté, pour certains, de dire que ce n'est pas tout à fait l'homme moderne, parce que justement, il n'a pas d'art, par exemple.
Ouais. Cela étant dit, je ne suis pas certaine que ce Néandertalien n'avait pas d'art, parce que quand on parle d'art, on parle de grottes ornées, on parle d'objets sur ivoire, mais s'il avait une forme d'art sur écorce d'arbre, comme on connaît dans certaines populations, ce n'est pas parvenu jusqu'à nous. On ne peut absolument rien dire. Moi, ce qui m'intrigue dans le Néandertalien, c'est comment le 19e siècle, avec son idée du progrès, cette idée positiviste, fait qu'au moment où on découvre le Néandertalien, on se dit... C'est pas le 20e siècle encore, c'est pas la fin du 19e siècle, donc forcément, il était moins. Et au fur et à mesure du temps, on va vers un être qui devient de plus en plus perfectionné, de plus en plus capable de faire des choses extraordinaires. Bon, quand on voit notre planète aujourd'hui, on peut se demander si on va vers le mieux.
Oui, tout à fait, mais je crois qu'aussi, il faut voir que Néandertal, maintenant, prend une autre figure qui est très utilisée dans l'écologie, notamment dans l'écologie radicale, parce que c'est un homme de nature qui était complètement en symbiose avec la nature, et donc devient, après avoir été rejeté, devient un être idéal. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même que dans ses comportements, il connaît parfaitement ses natures, qu'il en abuse pas, on n'a pas des massacres de gibier, c'est-à-dire qu'on ne voit pas des abattages massifs. Donc c'est vrai qu'il est imbriqué dans cette nature, et actuellement c'est un peu ça qui est assez curieux de voir, qu'il y a un renversement et qu'on a presque tendance à vouloir maintenant devenir Néandertal. Alors que là, je crois qu'il faut être prudent. Je pense que Néandertal était différent, mais ni inférieur ni supérieur.
Moi, je n'aime pas du tout cette idée de Néandertal qui était tellement l'homme de la nature. Je pense que, bien sûr, il n'y avait pas d'abattage massif, mais parce qu'il n'en avait pas besoin non plus. Hein. C'est-à-dire que c'était un autre type d'économie que celle d'aujourd'hui. Mais je ne vois pas cette image aussi que certains de nos collègues veulent donner de Néandertal comme une sorte d'homme primitif, l'homme proche de la nature, l'homme rousseauiste. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas passer d'un extrême
voilà,
à l'autre.
Tout à voilà. fait. Mais il ne faut pas oublier quand même que, par contre, le côté pour moi plus intéressant que le côté naturel, entre guillemets, c'est de voir qu'il avait des comportements culturels, des savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a souvent imaginé, les hommes préhistoriques en général, d'ailleurs pas spécialement Néandertal, comme des êtres complètement dépendants de l'environnement, qui en fin de compte chassaient ce qu'ils trouvaient, mangeaient ce qu'ils trouvaient. Ce qui est faux. C'est-à-dire qu'on voit très bien dans nos recherches sur les Néandertaliens, leur comportement, qu'il y a des savoir-faire. Qu'il y a un savoir-faire de chasseur de chevaux, de chasseur de rennes, et que même s'il y avait beaucoup de rennes, si moi je fais partie du clan des chasseurs de chevaux, je vais chasser le cheval parce que j'ai un savoir-faire, et je crois que ça me paraît peut-être ça qui est plus important, c'est qu'il est plus culturel qu'on l'a imaginé et peut-être moins naturel.
Bon, ça m'amène une question quand même. On est en train de dire que ces Néandertaliens sont bien adaptés à leur milieu, savaient très bien comment se débrouiller pour leur vie quotidienne, et puis quand même, ils ont disparu face à Cro-Magnon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue culturel?
Alors je crois que là, il faut signaler qu'il y a plein d'hypothèses, hein, qu'on est un petit peu quelque chose d'un peu vague. Mais quand même, je crois que maintenant, on arrive à cerner, en tout cas à éliminer certaines hypothèses. Je prendrai un exemple sur l'environnement. On a dit, il y a un coup de froid, vers les 30 000 ans, à partir de 40, 30 000 ans, il y a un coup de froid, donc les Néandertaliens ont mal supporté ce refroidissement. Alors là, je me pose vraiment totalement à cette hypothèse du changement climatique aurait provoqué l'extinction des Néandertaliens. Pourquoi? Parce que les Néandertaliens, c'est 300 000 ans.
Ils ont vécu d'autres changements climatiques.
Ils ont connu donc la dernière glaciation qui était froide avec des phases très froides. Ils ont connu l'interglaciation, donc là un réchauffement important, donc d'autres animaux, un autre environnement. Donc ils ont su s'adapter. Après de nouveau il y a un refroidissement très important, la dernière glaciation, la première phase glaciaire importante de ces glaciations est très forte. Donc là il y a vraiment, je crois que c'est pas très sérieux à mon avis. On ne peut pas dire ça. En plus, il faut faire aussi attention à une deuxième chose, c'est qu'il y a quand même la durée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, du jour au lendemain, disparu de la Terre, un petit peu comme s'il y avait eu une météorite qui serait tombée et hop, disparition. C'est quand même sur plusieurs milliers d'années, voire peut-être 10 000 ans. Donc ça prend quand même du temps entre les... Vraiment, je pense que ce n'est pas en même temps qu'exactement de l'arrivée des premiers hommes modernes que tous les Néandertaliens disparaissent. C'est-à-dire que c'est lorsque ces hommes modernes arrivent par vagues successives, pendant ces 10 000 ans, petit à petit, on voit qu'il y a une diminution donc des Néandertaliens. Et je pense que c'est ça qui est intéressant de voir, c'est le lien qu'il peut y avoir entre l'arrivée de ces hommes modernes et la disparition donc des Néandertaliens.
Et ce qui me surprend toujours un peu, on voit parfois comme ça dans la presse, la disparition des Néandertaliens est due à un contact avec l'homme moderne à cause des maladies. Ils ont été en contact avec une autre population. J'étais très contente que vous signaliez que la disparition a pris un très très grand marge de temps, parce que au contact avec les autres populations, on disparaît. On connaît ça dans les populations historiques, mais ça se passe très rapidement. C'est pas possible qu'au contact, on disparaisse comme ça et on disparaisse sur 10 000 ans. Une disparition sur 10 000 ans n'est pas une disparition.
Non, mais surtout qu'il faut, je reviens sur ça, ça me paraît très important et ça a été, à mon avis, négligé par beaucoup de chercheurs, c'est que, il faut s'imaginer, les Cro-Magnons arrivent en Europe. C'est pas les Hardes d'Attila. Ce sont des petits groupes qui vont venir d'une façon régulière, peut-être, à un moment donné, mais en tout cas, ce sont des petits groupes. Ils arrivent là. Ils arrivent probablement, la région actuellement la plus ancienne au niveau de leur arrivée, ce sont les Balkans, notamment la Bulgarie. Les Néandertaliens vont savoir, même ceux qui sont un peu plus loin, vont savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que, il va y avoir cette pression, ces nouveaux hommes qui arrivent, qui sont quand même fort impressionnants, puisque les Néandertaliens pensaient qu'ils étaient tout seuls en Europe, qu'il y avait personne, même sur Terre. Donc voilà, d'un seul coup, ils voient, en tout cas certains voient des groupes humains qui leur ressemblent, mais pas tout à fait. Et donc je pense qu'il y a dû y avoir quelque chose de vraiment de stressant pour ces groupes qui ont peut-être choisi la fuite, en tout cas le changement de territoire, qui sont partis, ils ont migré eux aussi au sein de l'Europe, ils ont changé, pour éviter peut-être les conflits. Parce que là aussi, je crois que les travaux en anthropologie Le Monde, on n'a vraiment pas de cas de conflit, de guerre, ce qu'on appellera plus tard, comme on verra au néolithique, majeur, on ne voit pas. Il n'y a pas une extermination de l'un par l'autre, en tout cas, de l'homme moderne sur les Néandertaliens.
Alors, il y a deux cas qu'on cite toujours comme étant presque des preuves, et à mettre vraiment entre guillemets, de possibles conflits. Bon, Saint-Césaire, donc, qui est un des derniers Néandertaliens sur le territoire français, qui montre, comme l'a montré donc, toutes les analyses qui ont été faites par les anthropologues par tomographie, qu'il y a une blessure qui paraît être une blessure trace violente. Bon, ça ne semble pas être dû à une chute. Mais bon, on connaît aujourd'hui quand même des blessures qui sont infligées par l'entourage direct. Voilà, ça peut être tout bêtement un cas de famille, appelons ça comme ça. Et puis récemment, vous avez vu cette étude dans laquelle on nous parle de cannibalisme. Donc les Néandertaliens auraient été cannibalisés par des hommes modernes. Moi, je suis un peu surprise par cette étude parce qu'elle se base uniquement sur le développement de l'émail dentaire. Or, en partant du principe d'une hypothèse que le développement et la croissance de l'émail dentaire est différent chez les Néandertaliens et chez l'homme moderne, on analyse deux mandibules et on montre que le développement n'est pas semblable et donc une appartiendrait à un Néandertalien, et vu que sur cette mandibule, il y a des traces de décharnement, ça veut dire que l'homme moderne a mangé le Néandertalien. Alors bon, je pense qu'il faut faire très attention. La variabilité chez les Néandertaliens était sans doute très importante, y compris dans la variabilité du développement et la croissance. Donc il faut rester très très prudent. Il y a des études génétiques qui montrent déjà qu'il y a une variabilité, même au point de vue génétique, qu'il y avait des sous-groupes de Néandertaliens. Il ne faudrait pas aller trop vite. Et puis c'est vrai que bon, ça répond encore à quelque chose de très ancien. Les hommes modernes, les premiers hommes modernes étaient un peu primitifs et faisaient des choses bizarres comme manger leurs ennemis.
Alors ça, c'est vrai qu'en fin de compte, c'est quand même une hypothèse moi qui m'a vraiment surprise. Parce que comment peut-on, même supposons que ça soit vrai, je ne vois pas comment le fait de cette pratique du cannibalisme ait pu engendrer l'extinction d'une population. Je crois que ça, c'est pas raisonnable. Je pense que c'est pas du tout quelque chose qui est envisageable. Pour moi, la théorie la plus plausible pour la disparition des Néandertaliens, c'est un problème démographique. Je crois qu'il faut rappeler que les Néandertaliens, déjà au niveau de leur démographie, ils sont sur toute l'Europe et ce sont des tout petits groupes dispersés. Donc ça devait être assez vraiment juste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on constate peut-être qu'il y avait une mortalité importante à la fois des enfants, ce qui est fréquent et qui sera fréquent dans les périodes historiques, mais aussi probablement de la mère. Parce qu'on a très peu de squelettes, et là je crois que vous pourrez peut-être parler sur ce sujet, qui sont de femmes qui sont très âgées, elles sont vraiment plus jeunes que la majorité des hommes. Et en plus, ce qui est important de voir, c'est que lorsqu'ils vont justement avoir cette pression indirecte des hommes modernes, ce déplacement, cette mobilité encore plus grande, va, à mon avis, provoquer vraiment ce qu'on appelle un stress démographique, que les démographes connaissent très bien, c'est-à-dire qu'il va y avoir un problème pour déjà rencontrer d'autres clans, donc se reproduire, parce que vous savez, c'est à l'extérieur qu'il faut donc aller chercher le partenaire. Et là, il va y avoir vraiment ce bouleversement à cause de ces déplacements, à cause de ces stress. Et à mon avis, il y aura une chute de démographie importante. Et lié à ça, peut-être vous pourriez apporter un éclaircissement sur la dilution génétique. Ce qu'on a dit aussi, c'est qu'il y avait peut-être une possibilité, en tout cas, qu'une partie se soit mélangée donc, aux hommes modernes et là aussi est petit à petit disparue.
Alors sur la dilution génétique, c'est une hypothèse, mais on n'en a pas des preuves anatomiques. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne peut pas dire telle population ou tel individu, tel fossile dans tel site montre des caractères ou montre des traces de métissage. Donc je pense que ça reste au niveau d'hypothèse. Alors moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ces problèmes démographiques parce que la démographie, le nombre d'individus qu'on suppose pour les Néandertaliens aujourd'hui me paraît très très faible. On pense que la population sur l'ensemble du territoire européen et la partie la plus proche de l'Asie qui est aux portes de l'Europe, cette population ne devait pas faire plus que 37, 50 000 individus. Moi, ça me paraît très très peu comme population. Alors, il peut y avoir eu effectivement un faible effectif qui reste à prouver quand même du point de vue génétique. À mon avis, il y a peut-être un autre élément qu'on ne prend pas suffisamment en considération. On connaît en génétique des populations ce qu'on appelle l'effet du fondateur, c'est-à-dire l'effet de la population qui arrive, migrante, qui a une grande dynamique, disons, reproductrice. Et ça me paraît une chose qu'on ne doit pas oublier. Et je pense que ça a été montré, 2% de différence dans la reproduction d'une population par rapport à l'autre, dans notre cas des Néandertaliens, 2% de capacité reproductrice de moins par rapport à Homo sapiens, eh bien en 1000 ans, nous avons la population d'Homo sapiens qui peut remplacer complètement les Néandertaliens, sans qu'il y ait pour autant cannibalisme, sans qu'il y ait eu pour autant destruction violente d'une population sur l'autre.
D'autant plus que moi je voudrais revenir sur les dernières découvertes qu'on a faites, c'est qu'on a découvert dans certains sites archéologiques, notamment en Europe orientale, c'est-à-dire en Ukraine, particulièrement en Crimée, des sites où en fin de compte, on voit que les Néandertaliens sont sur les mêmes territoires que les hommes modernes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette alternance, puisque sur un site, donc dans un abri, on a un niveau occupé par les Néandertaliens, et ensuite un niveau qui semble occupé par les premiers hommes modernes, mais de nouveau, sur ce niveau, de nouveau les Néandertaliens. Et ça, c'est assez exceptionnel comme découverte, et après, donc, des hommes modernes. Donc ça veut dire qu'il y avait probablement donc une espèce de répartition sur ces territoires, donc des deux populations. Mais je voudrais quand même soulever le problème que dans ces fameuses industries dites de transition, on ne sait pas s'ils sont avec Cro-Magnon ou s'ils sont avec Néandertal, parce qu'on n'a pas l'artisan. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a taillé, et c'est ça qui est
passionnant. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un problème? Quand vous dites « on voit arriver les hommes modernes », vous voulez dire c'est parce que vous voyez des niveaux où il y a une industrie qu'on suppose être faite par les hommes modernes.
Exactement.
Là encore, il y a un problème. Et
ça voudrait dire qu'ils ont été peut-être, ils sont morts peut-être moins, plus récemment qu'on ne le pensait. Ça va peut-être reculer cette espèce de période de disparition des Néandertaliens. Parce qu'il faut bien voir que la proportion des sites sans reste humain est quand même nettement plus importante qu'avec reste humain. Donc toutes ces zones très intéressantes de ces passages, ces transitions, eh ben on ne sait pas vraiment qui fait quoi. Quel est l'artisan? Est-ce que c'est déjà l'homme moderne ou est-ce que c'est encore Néandertal? Donc je crois que là c'est important et qu'il faut être extrêmement prudent et que l'extinction a eu lieu, ça, probablement, mais en tout cas la date peut-être peut reculer. Alors là, quand on parle de la génétique, évidemment, tout de suite, la tarte à la crème, c'est le clonage. On veut tout cloner, on veut cloner les mammouths, on veut cloner les loups de Tasmanie qui ont disparu, tout ça. Il y a même un Américain qui veut faire un parc avec tous ces animaux disparus. Et je dois dire que j'ai bondi, et vraiment, j'étais furieuse, j'ai dénoncé même ça, le fait d'entendre dire « Ah, ça serait bien cloner Néandertal ». Parce que alors là, au niveau scientifique, ça, je ne sais pas s'il y aura un intérêt, je crois que vous serez plus à même pour en discuter. Mais franchement, au niveau éthique, cloner un être humain, parce que pour moi, c'est ça. Néandertal, c'est un être différent de nous, mais il fait partie de notre humanité. Alors, peut-être qu'il y a des intérêts au clonage, mais moi, je suis en tout cas très sceptique par rapport à...
De toute façon, je veux vous rassurer, ça ne va pas se passer demain.
Hein? Tant mieux.
Puisqu'on est en train, pour l'instant, simplement de décrypter le génome de Néandertal, et de toute façon, on pense qu'on aura un génome entier de Néandertalien, d'ici 2011-2012. Donc, il y a un peu de temps. Et aussi, une chose qu'on ne dit pas suffisamment, c'est-à-dire que ce génome de néandertalien qu'on va avoir, ce n'est pas une personne entière, ce n'est pas un néandertalien d'un site en particulier. C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment d'ADN nucléaire d'un fossile de tel endroit déterminé pour pouvoir avoir la totalité du séquençage du génome nucléaire. Donc le séquençage qu'on va avoir du génome de néandertalien est une sorte de patchwork. Une partie prise d'un néandertalien, une partie prise de l'autre néandertalien, etc. Donc c'est, je dirais, un néandertalien virtuel qui n'a jamais existé. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Mais il faut voir aussi, alors moi je sais que peut-être, parce que je ne pense pas qu'on arrivera vraiment à cloner physiquement le néandertalien comme on a fait pour Dolly, la fameuse brebis, je pense qu'il faut voir peut-être les choses d'une façon différente. Qu'est-ce qu'on essaie de faire en séquençant l'ADN nucléaire du néandertalien ? On essaie quelque part de comprendre ce néandertalien. Quand on a vraiment séquencé le gène fameux FOXP2, le fameux gène du langage, et qu'on montre que ce gène existe chez le néandertalien dans la même forme que chez l'homme actuel, et que donc, d'un point de vue génétique, il n'y a pas d'incompatibilité pour le langage chez le néandertalien, bon, c'est une donnée.
Mais donc, à mon avis, ce qu'il faudrait peut-être faire, qui serait très utile, et je ne crois pas que ça ait été vraiment engagé, c'est de regarder le génome, mais des premiers hommes modernes. Et pas de comparer avec, le génome des néandertaliens, enfin les parties, avec l'homme actuel que nous sommes.
Oui, mais le problème,
et je pense que c'est ça, là on ne travaille pas assez pour
oui,
moi sur ça.
Oui, mais nous n'avons pas de fossiles suffisamment anciens d'hommes modernes, d'une part, et les rares fossiles qu'on a anciens d'hommes modernes n'ont pas de l'ADN. C'est-à-dire que l'ADN est extrêmement fragile, oui. Se dégrade très très vite. Et en plus, il y a une corrélation entre les conditions de conservation des squelettes après la mort et la dégradation d'ADN. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Si vous regardez la carte des néandertaliens qui ont été séquencés, y compris pour l'ADN mitochondrial, ils se trouvent où ? Dans des régions froides. Vous l'avez en Belgique, vous en avez dans le nord de l'Allemagne, vous en avez en Crimée, vous en avez en Sibérie. Mais donnez-moi un seul nom de néandertaliens du sud de l'Europe qui étaient séquencés, il n'y en a pas. Parce que la température est telle que la dégradation du collagène qui est dans les os est très rapide, donc on n'a pas d'ADN.
Oui, mais moi je pense qu'il faut, il faut être prudent. Parce que ce qui me fait peur dans ça, c'est que cette façon de considérer comme en fin de compte un cobaye, un objet de laboratoire, le ramène... vraiment à un être quand même qui n'est pas tout à fait comme nous, c'est-à-dire qu'on peut manipuler, qu'on peut traiter, on peut triturer ses gènes, on peut tout... Et c'est en ça que je dis un petit peu méfiant, c'est-à-dire que on va peut-être aller après vraiment à ne plus envisager qu'on est en train de travailler sur une matière première qui pour moi est humaine. Donc,
Alors, je discute avec vous, je suis d'accord que les Néandertaliens sont des humains à part entière et on doit se poser pour les Néandertaliens les mêmes règles qu'on se pose pour l'humanité actuelle. Bon, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais réellement, je pense que d'un point de vue scientifique, nous ne sommes pas au niveau de faire un zoo pour les Néandertaliens. C'est-à-dire que l'image que vous avez donnée tout à l'heure de cette personne qui envisage un énorme parc dans lequel il y aura des mammouths, des rhinocéros laineux et des Néandertaliens, pour moi, c'est une image choquante. Hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'avais face à moi un Néandertalien, qui le pauvre serait bien perdu dans le monde dans lequel on vit, bah, je ne le mettrais pas dans un zoo. Hein. Je lui donnerais un appartement, je lui donnerais toute la sécurité sociale, toutes les choses dont il aurait besoin. Pour moi, c'est un humain qui ne saurait pas se défendre dans le monde actuel et donc qui aurait besoin de protection. Pas du tout, je n'en ferais pas un animal de zoo et que je vais voir avec mon appareil photo. Mais cela étant dit, comme on travaille sur la génétique humaine, c'est-à-dire on a séquencé le génome d'hommes modernes, ça fait très peu de temps, hein, ça fait quoi, 4 ans, 5 ans qu'on le connaît. On peut séquencer le génome du néandertalien et comme on travaille sur certains gènes humains, on peut travailler sur certains gènes néandertaliens. dans mon esprit, ça ne doit pas aller plus loin. Ça doit rester dans le domaine de connaissance de la variabilité des Néandertaliens et de la variabilité humaine et différence des Néandertaliens par rapport aux humains.
Moi, je pense que de toute façon, Néandertal, s'il se promenait dans le métro vêtu comme actuellement, ne le reconnaîtrait pas forcément, parce que certaines personnes ont un physique, on peut dire, de Néandertalien. Donc, c'est vrai que c'est toujours aussi très, très difficile. Et c'est plus au niveau comportemental qui serait identifiable, puisqu'on voit bien que maintenant, les chasseurs-cueilleurs sont en voie de disparition et que ce n'est pas du tout le mode de vie actuel. Donc, c'est vrai que là, ça poserait quand même un souci si on le clonait. Justement, on le mettrait quoi dans un parc pour qu'ils vivent de chasse et de cueillette, comme on fait des réserves pour les derniers peuples chasseurs-cueilleurs. Donc là, je pense que c'est quand même un souci.
De toute façon, on le reconnaîtrait un peu physiquement quand même. Hein. Son visage est quand même différent. Je veux bien qu'on voit de tout dans le métro, mais quand même. Mais je pense surtout que le Néandertalien serait perdu dans notre monde d'un point de vue culturel. Il n'y a aucun doute sur ça.
Donc moi, je pense qu'il vaut mieux pas le cloner.
Mais je pense qu'on ne le fera jamais. Et d'ailleurs, on pourrait réfléchir et bâtir une charte pour dire jusqu'où on peut aller avec les études génétiques. Puisque de toute façon, ce sont des études qui sont en cours. On pourrait se mettre d'accord pour décider jusqu'où nous pouvons aller.
Puisqu'on le fait pour l'homme actuel, donc pourquoi pas aussi pour les hommes passés.
Et dans la mesure où nous pensons que c'est un humain, il peut, d'ailleurs, est-ce qu'il faut faire un nouveau document, puisque nous le considérons humain, est-ce que finalement, il ne rentre pas dans cette charte qui existe déjà sur le clonage humain ?
Voilà, il suffirait de rajouter actuel et passé, peut-être.
Voilà.
C'est déjà fini, dommage. Et bravo, mesdames. La semaine prochaine, on se retrouve avec d'autres invités et on recommence.